Vous écoutez On lit pour vous.
La puissance insoupçonnée du questionnement au travail. Un texte de Simon Grenier paru le 2 juin 2026 dans la presse. Quel est l'impact d'une question bien formulée dans une interaction avec un collègue ou un client? Elle peut stimuler la réflexion de votre interlocuteur, ouvrir une nouvelle solution ou vous permettre une meilleure compréhension de sa situation. Pourtant, poser de bonnes questions est une compétence qui reste à peaufiner pour beaucoup d'entre nous. Cela peut notamment s'expliquer par le fait que nous sommes plutôt habitués à donner des réponses ou à montrer que nous maîtrisons nos dossiers. Dans une telle posture, poser une question devient un signe de faiblesse. Et si on changeait le narratif pour rendre le questionnement puissant et constructif? L'impact de poser des questions. Pour préparer la prochaine version de mon cours de consultation en psychologie du travail et des organisations, je relisais récemment un livre d'Edgar Schein. Ce penseur du MIT affirme que le questionnement permet de réduire les déséquilibres de pouvoir entre deux personnes. Ainsi, un gestionnaire qui pose des questions démontre de l'intérêt envers son employé. Aussi, pour un collègue, l'acte de questionner représente une démonstration de vulnérabilité. En lui posant une question, vous montrez que vous acceptez d'ouvrir le dialogue. En retour, votre interlocuteur vous donnera accès à son expertise, à ses connaissances ou à sa façon de voir les choses, tout simplement. Al Gregerson, autre chercheur du MIT, pousse même l'utilisation du questionnement un peu plus loin. Dans ses recherches et ses interventions auprès de comités de direction, il propose des exercices où les exécutifs ne peuvent faire autre chose que de poser des questions. En quelques minutes, une fois un problème identifié par l'équipe de direction, les membres sont tenus de formuler uniquement des questions plutôt que des solutions. Selon l'auteur, cette approche génère des pistes de réflexion inattendues dans la majorité des cas. La posture de questionnement. Rappelez-vous une question récente vous ayant donné de l'énergie ou ayant entraîné une discussion inattendue. Comment a-t-elle été posée? Comment votre interlocuteur a-t-il réagi? Toutes les questions n'ont pas la même visée. Par exemple, si vous posez une question dans le but de confirmer vos hypothèses, vous n'aurez pas le même impact que si vous tentez d'aborder la situation présentée sans a priori. Schein nomme cette posture le questionnement humble. En résumé, il propose d'entamer une démarche de questionnement en adoptant une posture naïve. Vos questions servent alors à explorer et vraiment comprendre la problématique de l'autre. Les questions sont donc formulées de façon ouverte et assez large pour ne pas diriger la conversation. Il est important de formuler une question claire et alignée sur le propos de votre interlocuteur. Par exemple, si votre collègue vous présente une situation de conflit avec un client difficile, vous pouvez l'encourager à développer sa pensée par rapport à la situation en lui demandant de vous en dire plus. Au fur et à mesure que la discussion avance et que votre compréhension s'affine, vous pouvez alors poursuivre le questionnement en l'orientant. Dans cette nouvelle posture, vous pourriez chercher à valider vos idées ou même à les intégrer dans la conversation pour provoquer un peu votre vis-à-vis. Ainsi, dans la situation du client difficile, vous pourriez avoir des indices que votre collègue était sur la défensive dans son interaction avec celui-ci. Il est alors possible de lui demander s'il s'est attardé à ce qui préoccupait son client. En plus de vous fournir de l'information sur ses réactions, cette question pourrait faire réfléchir votre collègue sur l'importance de s'attarder à la perspective de l'autre pour éviter une escalade. Poser des questions sur ce qui se passe ici et maintenant. Lors de votre dernière interaction enflammée avec un ou une collègue, comment auriez-vous pu utiliser le questionnement? Une dimension avancée de cette compétence repose sur votre capacité à remettre en question ce qui se passe directement dans votre interaction au moment où ça se passe. Face à un désaccord, vous pourriez prendre un temps d'arrêt, regarder votre collègue et lui demander si vos propos l'ont choqué. Il serait aussi possible d'explorer si vous débattez du bon point considérant la problématique que vous cherchez à résoudre. Souvent, en situation de malaise ou de malentendu, l'utilisation de la question permet de prendre une pause et de faire un bilan de ce qui se passe. En procédant ainsi, sans chercher à mettre la faute sur l'autre, il est possible de réaligner la discussion et de la rendre plus constructive. Bref, l'affirmation et la prise de position auront toujours leur place dans les discussions avec vos collègues et vos clients. J'espère toutefois que vous oserez tenter le questionnement pour diversifier vos stratégies de communication et profiter de la puissance qu'il peut avoir. C'était « La puissance insoupçonnée du questionnement au travail », un texte de Simon Grenier paru le 2 juin 2026 dans la presse.
Le glow-up du Costco. Un texte de Florence Larochelle paru le 20 mai 2026 dans le magazine Urbania. Pour ma mère qui avait 6 bouches à nourrir, le Costco, c'était le pit stop obligatoire quand on faisait la route vers Québec. À cette époque-là, le Club Price, les vrais savent, c'était le repère des familles de banlieue qui voulaient économiser sur leur épicerie. C'était sacré. On s'y rendait la fin de semaine, habillés en mou, avançant en procession dans ce grand temple du vrac, la rétine caressée par les doux néons de l'entrepôt et les mains crispées sur un panier qui roulait tout croche. On en ressortait avec une facture assez longue pour faire un chemin de table à Noël et un coffre de char rempli de produits certifiés 100% plate. Assez de papier de toilette pour survivre à une gastro familiale. De la viande hachée en quantité industrielle destinée à finir en pâté chinois, des caisses de jus et des boîtes de bar tendre pour les lunchs. Bref, une virée au Costco, c'était tout, sauf glamour. Personne ne ressentait le besoin d'immortaliser son panier ou de vanter ses trouvailles, in and out. Mais aujourd'hui, le Costco est devenu un endroit où l'on peut acheter du beau, du bon et même du relativement trendy. On y trouve maintenant des olives à martini, des tartinades pour l'apéro, des fromages dont même ma grand-mère française raffole, des anchois blancs, des huiles d'olive bien instagrammables. Bref, des produits qu'on associait autrefois davantage aux épiceries fines qu'aux palettes d'entrepôt. Le Costco a aussi maintenant une aura santé. Les rangées de poudre protéinées côtoient les fruits biologiques congelés, les boissons de Jim Bro et les collations riches en fibres. Ces temps-ci, en ouvrant TikTok ou Instagram, il y a de fortes chances que vous tombiez entre un outfit of the day et une vidéo de chien sur une personne très excitée de vous montrer les nouvelles baies enrobées de yogourt disponibles chez Costco. Des comptes entiers, certains comptant des millions d'abonnés, sont consacrés à la marque. On y vlogue sa virée dominicale, les aubaines cachées, les arrivages saisonniers et les rabais à ne pas manquer. Un triangle des Bermudes dans l'entrepôt. Je pense qu'il y a 3 grandes raisons pour lesquelles une séance de magasinage au Costco a tout ce qu'il faut pour produire un contenu capable de freiner mon scrollage. D'abord, il y a l'effet chasse au trésor. Contrairement à une épicerie normale où tout est clairement indiqué et prévisible, le Costco est à la fois très organisé et complètement chaotique. Inventaire? Renouvelé sans avertissement. Signalétique dans les allées? Absente. On est quelque part entre un labyrinthe et un cherche et trouve, soit le matériel parfait pour un vlog dont je me délecte à l'horizontale. Le Costco fonctionne aussi un peu comme un club privé. Pensez-y. On paie une adhésion annuelle pour avoir accès à un espace qui nous est réservé, ainsi que ses privilèges et ses produits exclusifs. Cette carte de membre transforme un ado avec une hypothèque en adulte assumé. Et il faut le dire, l'aspect parc d'attractions est non négligeable. Demandez à ma mère qui, encore aujourd'hui, va au Costco en catimini pour éviter que je ne l'accompagne et que je ne la ralentisse à force de l'arrêter, flabbergastée avec un nouvel item saugrenu à ajouter à son panier déjà trop plein. Ça nous prend absolument un ourson géant, un kayak et une barre Toblerone assez longue pour servir de banc de parc. Du crack pour le consommateur responsable. Ce qui me fascine, c'est qu'en ligne, les Costco sont perçus différemment des autres. On est loin du classique. Regardez, j'ai fait une folie. J'ai dépensé 300 $ chez Sephora. Les Costco, eux, donnent plutôt l'impression aux consommateurs d'être responsables parce qu'ils ne comprennent que des produits du quotidien, de la bouffe, des produits ménagers, des collations pour les enfants, bref, des choses utiles. Mais économise-t-on vraiment quand on magasine chez Costco? Probablement sur certaines affaires, comme l'a démontré cette enquête menée par le Protégez-vous. Par contre, après avoir ajouté à son panier des raviolis géants, une boîte de 48 dumplings et la fameuse burrata devenue virale, la réponse est un peu plus floue. À une époque où le prix du panier d'épicerie nous obsède plus que jamais, regardez quelqu'un optimiser sa virée au Costco. Ça donne presque l'impression qu'il existe encore une manière intelligente de consommer. Pourquoi ces personnes qui achètent une épicerie pour la semaine, mais aussi un baril de bretzel au chocolat et un paddleboard, réussissent à me convaincre qu'elles sont organisées, stratégiques, voire disciplinées? Le fantasme de la classe moyenne. Si le Costco est passé d'un simple magasin à un véritable phénomène culturel, c'est peut-être parce qu'il correspond à ce que la classe moyenne recherche en ce moment, contrôler ses dépenses sans devoir faire des compromis. Dans le fond, les vlogs à thématique Costco sont peut-être devenus viraux parce qu'ils transforment quelque chose d'aussi angoissant que faire son épicerie en expérience rassurante, et pour vrai, je pense que j'avais besoin de ça. C'était le glow-up du Costco. Un texte de Florence Larochelle, paru le 20 mai 2026 dans le magazine Urbania.
La réduction d'heures de soins à domicile, la nouvelle épreuve de Benjamin Leclerc. Un texte d'Isabelle Porter, paru le 28 mai 2026 dans Le Devoir. L'ancien champion de wakeboard, devenu tétraplégique, Benjamin Leclerc, 32 ans, se bat depuis un an pour récupérer les heures de soins à domicile que le réseau public lui a enlevées, soi-disant parce qu'il en avait trop avant. C'est comme s'il voulait te décourager de rester à domicile, dit-il en entrevue. Il y a 9 ans, un grave accident a laissé Benjamin Leclerc paralysé jusqu'au cou. Mais, grâce, entre autres, aux soins qu'il recevait chez lui, il pouvait auparavant mener une vie assez active et travailler en utilisant en partie ses mains et ses épaules. Il travaille comme vidéaste à l'aide d'un équipement fait sur mesure pour sa chaise et d'une manette qui dirige ses actions. Il joue le rôle d'ambassadeur de la course Wings for Life, un événement international qui récolte des fonds pour la recherche. Mais depuis un an, c'est plus compliqué. Le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest, CI3SMO, a réduit ses heures de service à domicile chaque semaine de 107,5 heures à 56. Des heures pour l'aider à sortir de son lit le matin,
à s'habiller, à se laver, à faire ses besoins, à manger, à prendre ses médicaments, etc. Auparavant, une personne venait aussi la nuit pour le tourner dans son lit afin qu'il ne fasse pas de plaie de lit. Tout à coup, dans leur plan, là, tu ne soupes plus, tu ne te couches plus, tu n'as personne qui veut t'aider le soir, tu n'as certainement personne pour t'aider à virer la nuit, tu vas aller à la toilette aux deux jours. En avril 2025, Benjamin Leclerc a reçu un appel de son travailleur social qui lui a annoncé que ses heures seraient réduites et qu'il ne pouvait pas y faire grand-chose. Mal à l'aise, il lui a dit que le réseau de la santé était sous pression, que le réseau cherchait à économiser et qu'il devait faire entrer la routine de Benjamin Leclerc dans une nouvelle grille imposée par le CI3SMO qui nie avoir fait des coupes. Il n'y a eu aucun désengagement financier ni aucune réduction imposée des services, a répondu sa porte-parole au Devoir. Aucun usager n'a subi de rupture de services essentiels et chaque situation continue de faire l'objet d'un suivi clinique rigoureux, assure-t-on. Le CI3SMO n'a pas voulu dire combien de patients avaient subi des baisses de services depuis l'adoption de la nouvelle grille, comme le demandait le Devoir. Dans sa réponse, l'organisation souligne plutôt qu'elle dessert plus d'usagers en 2026 qu'en 2025, soit 21 de plus, 2335 au lieu de 2314. D'autres cas ailleurs. Benjamin Leclerc n'est pas le seul à s'être fait réduire des heures sans justification claire. L'organisme Moelle épinière et Motricité Québec, MEMO, dit avoir accompagné des dizaines de personnes dans la même situation. Son directeur général, Walter Zelaya, est convaincu qu'il y a une directive ou une orientation dans le réseau demandant de réduire des heures consacrées à certains pour permettre à d'autres d'avoir accès aux services. Benjamin Leclerc est éloquent et capable de se défendre, fait remarquer M. Zelaya, mais il y en a beaucoup qui ne se plaignent pas par crainte de voir leur situation empirer. Je vois des gens qui sont à un niveau de détresse jamais vu auparavant, se désole-t-il. Le député Vincent Marissal a aussi répertorié de nombreux cas du même genre à son bureau de circonscription dans Rosemont. Le 7 mai, il a interpellé la ministre de la Santé au Parlement à ce sujet. Savez-vous ce que Santé Québec envoie comme mémo aux gens? On ne vous coupe pas des services, en fait. C'est que vous en avez trop, a-t-il lancé. La ministre de la Santé s'est dite très surprise d'apprendre ça. Il y a eu des rajustements en soutien à domicile avec l'arrivée de Santé Québec. C'est vrai, a-t-elle concédé, en ajoutant que, depuis, Santé Québec avait augmenté le nombre de personnes ayant accès à des services. Le directeur de l'organisme Ex-Éco, qui représente aussi des personnes handicapées, a également reçu des appels à ce sujet. Il y a une sorte de violence administrative dans tout ça. Les gens se font culpabiliser de demander des ressources au système, avance Hugo Vaillancourt. C'est exactement ce que raconte Benjamin Leclerc. On insiste souvent sur la durée des soins, disant que c'est trop long, qu'à cause de moi, d'autres patients ne peuvent pas avoir de soins, car je monopolise trop de leur temps. Le patient ne décide pas des soins dont il a besoin et ne devrait pas devoir se sentir mal quant à la durée. Sa conjointe a arrêté de travailler. Il a multiplié les recours, interpellé le CI3SMO à plusieurs niveaux, écrit à la commissaire aux plaintes. Après avoir étudié son dossier, elle en a conclu que tout avait été fait dans les règles. La nouvelle grille, appliquée de manière uniforme pour tous, vise à assurer une équité envers les usagers, écrit-elle dans sa réponse. Mais Benjamin Leclerc explique que les heures qu'on lui consacrait auparavant répondaient bien à un besoin, que c'est le CLSC qui avait jugé qu'il avait besoin de 106 heures et que sa condition n'a pas changé depuis. Pour certaines personnes, 106 heures, ça peut paraître beaucoup, convient Walter Zelaya. Or, c'est ce qui permet à Benjamin Leclerc de rester actif et de travailler. On ne se rend pas compte à quel point on attaque la dignité des personnes, dit-il. À cause des heures en moins, la conjointe de Benjamin Leclerc, Aurélie, a dû compenser. Le CI3SMO a fini par lui débloquer 15 heures de plus, qui servent à la payer pour une partie des heures qu'elle consacre à s'occuper de lui. Les 56 heures restantes sont des allocations autonomie à domicile, anciennement le chèque emploi-service, qui lui permettent d'acheter des services au privé ou dans des OBNL, mais ça ne suffit pas. Dès lors, Aurélie a finalement dû quitter son travail. Je donnais des cours de yoga. J'étais tatoueuse aussi avant. Peu à peu, j'ai tout arrêté, résume la jeune femme de 33 ans. Quand on lui demande si elle trouve ça difficile, elle répond qu'elle n'a pas le choix. Ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'il lui demande de faire des concessions sur sa santé. Récemment, Benjamin Leclerc a développé ce qu'on appelle une plaie de pression ou plaie de lit. Ce type de lésion peut le forcer à rester étendu et inactif pendant des semaines, voire des mois. Aurélie est convaincue que ce ne serait pas arrivé si l'aide avait été maintenue. Les pansements, tout ça, je n'ai pas de formation pour faire tout ça. C'est devenu quasiment systématique de réduire les heures de soutien à domicile des gens lorsqu'ils emménagent avec quelqu'un, selon M. Zelaya. On est en train de briser un contrat social sans que ce soit dit, déplore-t-il. On est en train de faire des coupes draconiennes sans assumer ça publiquement. C'était la réduction d'heures de soins à domicile, la nouvelle épreuve de Benjamin Leclerc. Un texte d'Isabelle Porter, paru le 28 mai 2026 dans Le Devoir.
L'été s'annonce plus frais avec plus de précipitations. Un texte de Stéphane Blais de La Presse canadienne, paru le 27 mai 2026 dans Le Devoir. Le passage rapide de la Niña vers El Niño pourrait se traduire par l'été le plus frais depuis 2027, selon Météo Média. Météo Média prévoit des températures sous les normales saisonnières cet été, pour une bonne partie du Québec et de l'Ontario, et des précipitations au-dessus des normales. Le passage rapide de la Niña vers El Niño au cours de l'été devrait provoquer du temps caniculaire dans l'ouest du pays, mais pour l'est, c'est plutôt le contraire qui est prévu. Météo Média prévoit la saison estivale la plus fraîche depuis 2017 au Québec. Cet été-là, la température moyenne pendant le jour à Montréal avait été de 24,6 degrés Celsius. En général, un été de transition vers El Niño ne favorise pas les fortes chaleurs dans l'est du Canada. Et ce genre de transition ne favorise pas l'installation d'un régime météo bien ancré, a expliqué André Monette, chef de service de la météorologie à Météo Média. Il y aura donc une alternance de régimes météo durant l'été, avec des périodes un peu plus chaudes, mais aussi des périodes un peu plus fraîches au Québec, a précisé le météorologue. Bien qu'un été sans grande canicule soit prévu pour l'Ontario et le Québec, il devrait tout de même y avoir des périodes de chaleur estivale, mais de courte durée, selon Météo Média. On pense avoir plusieurs journées avec 30 degrés Celsius, mais peut-être moins de 32, 33, 34 degrés, comme ce fut le cas plusieurs fois dans la dernière décennie. Même s'il est encore trop tôt pour s'avancer, la présence d'El Niño pourrait signifier un automne chaud pour le Québec et l'Ontario. Normalement, l'été ne devrait pas se terminer d'un coup sec à la fin d'août. On devrait avoir une prolongation de l'été en début d'automne, a indiqué avec beaucoup de prudence André Monette. Pour la majorité des régions du Québec et de l'Ontario, il est prévu que les précipitations soient au-dessus des normales saisonnières dans les prochains mois. Mais le peu de périodes de forte chaleur et d'humidité devrait limiter la fréquence d'orages violents. À la fin de l'été, les quantités totales de précipitations n'excéderont pas énormément les normales saisonnières, selon Météo Média. Les températures devraient être près des normales saisonnières dans l'Atlantique, selon le communiqué publié mercredi par Météo Média. Puisque le nombre de tempêtes tropicales sera limité dans le bassin atlantique, des précipitations près des moyennes sont attendues pour ces provinces. El Niño, a précisé André Monette, amène normalement moins d'ouragans, moins de tempêtes tropicales au niveau du bassin atlantique. Donc, pour cette région, c'est une bonne nouvelle. La Colombie-Britannique et l'Alberta devraient connaître les anomalies de température les plus importantes cet été, selon le communiqué de Météo Média, alors que les températures devraient se situer au-dessus des normales pour les deux provinces les plus à l'ouest du pays et près des normales au Manitoba et en Saskatchewan. En général, les habitants des provinces de l'ouest doivent s'attendre à du temps plus sec. L'impact sur l'agriculture et la saison des feux de forêt sera surveillé dans les prochains mois, a écrit Météo Média. C'était « L'été s'annonce plus frais, avec plus de précipitations », un texte de Stéphane Blais de la Presse canadienne, paru le 27 mai 2026 dans Le Devoir.